Bonjour Francis Ganry, merci de passer par les micros de RCF en cette fin d'année. Francis Ganry, si j'ai dit de vous que vous êtes un enfant de la Charente, vous serez d'accord, bien évidemment.
Bien sûr.
Et que vous êtes un amoureux de la nature, que vous avez... C'est peut-être la nature qui vous a conduit à un diplôme d'ingénieur agronome, qui vous a amené dans une belle carrière en Afrique, et vous êtes revenu maintenant sur nos terres ici. Mais surtout... Là, vous êtes là parce que vous avez écrit un très bel ouvrage, un ouvrage un peu militant, mais un ouvrage qui touche beaucoup et qui s'intitule « Qui m'a tenu la main le jour de mon certificat d'études ?» En fait, c'est le récit d'un témoin du monde paysan et de la foi et qui est publié aux éditions Saint-Léger Édition, que l'on trouve facilement. Il suffit de taper d'ailleurs Saint-Léger Édition ou Francis Ganry et on vous trouve sur Internet. Donc Francis Ganry, merci d'être là. Nous allons non pas raconter ce qu'il y a dans les livres, parce que ce serait pas bien, mais vous allez nous dire d'abord pourquoi vous avez écrit ce livre, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, et puis vous nous donnerez des anecdotes, et surtout vous allez nous dire quels ont été les moments forts qui vous ont amené à sortir de votre intérieur pour raconter ces très belles histoires. Je vous en prie. Alors, quelles sont ces rencontres? Au fond, je disais que vous aimiez la nature. Est-ce que c'est votre première rencontre?
Effectivement, la nature est ma première rencontre quand j'étais enfant à la campagne et que je travaillais la terre avec mon père. Et cela, donc, fait partie de mes racines qui ont sans doute contribué plus tard à me pousser à faire des études d'ingénieur agronome. Mais en fait, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est beaucoup plus mon histoire vécue après, au moment de la mort de mon père, au moment de son suicide, parce que là, j'ai reçu des révélations. Je n'avais que 13 ans et demi, et je me suis trouvé le lendemain de son suicide, et c'est moi qui avais découvert son corps, donc j'étais extrêmement bouleversé, et j'ai reçu en moi une pensée sereine, qui m'a dit « Francis, sache que ton père n'est pas mort, que tu le reverras un jour ». Alors j'ai été surpris de cette pensée sereine, j'ai voulu l'approfondir, la scruter en moi, et bon, elle était plutôt évanescente, après elle s'est plus ou moins dissipée, mais le message était là. Et de nouveau, j'avais constamment dans ma tête, revenait constamment cette pensée, cette certitude même que mon père n'était pas mort, que je le reverrai un jour. Alors il faut que je vous dise que je n'étais pas du tout influencé par le milieu catholique. Mes parents étaient sans doute croyants, mais ils n'étaient pas pratiquants. On ne parlait jamais de religion à la maison. Donc,
cela... Votre curé non plus ne venait pas vous voir.
Le curé ne... Alors le curé est invité au... chaque année au moment de la cuisine de cochon. Ah. Voilà, on tuait un cochon et après il y avait un repas festif. Alors on invitait le curé mais pas l'instituteur, mais mes parents portaient quand même des cochonailles à l'instituteur.
Laïc Arnoir n'était pas invité. Mais voilà. Est-ce que vous vous souvenez, Francis Ganry, du moment, parce que vous me dites j'ai eu comme une révélation sereine. Quand et où s'est passée cette révélation?
Alors cette révélation s'est passée, je me revois exactement. Donc âgé de 13 ans et demi, hein, face à ma maison, et j'ai ressenti donc une joie profonde, et alors que j'étais en pleine détresse, hein, et quelque chose m'a dit à moi, ton père n'est pas mort, tu le reverras un jour. Voilà. Et ça a été c'est devenu une certitude qui s'est imposée, et même à la sortie du cimetière, j'ai eu de nouveau cette certitude que je reverrai mon père un jour.
Et vous l'avez cherché tout au long de votre vie?
Alors après, attendez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le certificat d'études.
Oui.
Voilà, donc 3 jours après les obsèques de mon père, je suis parti passer le certificat d'études. En fait, on m'y a poussé parce que je ne voulais pas aller passer cet examen qui pour moi me semblait superflu, d'autant que je n'étais pas un brillant élève. Et étant l'aîné de la famille, je me sentais responsabilisé depuis la mort de mon père.
Et vous étiez fait pour reprendre l'affaire?
Je voulais la reprendre. Je voulais absolument la reprendre, puisqu'il y avait des vignes, il y avait des vaches, il y avait un troupeau.
Vous êtes un enfant.
Et je me sentais Comment ?
Vous êtes un enfant du monde paysan.
Ah, je suis un enfant du monde paysan. Hein. Et j'étais un vrai paysan. Je savais cultiver la terre. Mon père m'avait appris à cultiver la terre. Et mon père, d'ailleurs, je me suis rendu compte depuis que je suis ingénieur agronome, d'ailleurs, que mon père était un agriculteur bio avant l'heure. Hein, il avait fait des toilettes sèches. Il pratiquait la fumure organique. Et moi, je voulais reprendre la ferme. Mais il n'était pas question, dans ma famille, hormis mon grand-père, que je reste à la terre. Voilà. Donc, ils ont fait pression sur l'instituteur, qui m'a fait venir chez lui pour me dire, Francis, tu dois aller passer ton certificat d'études à Cognac.
Il y avait un rassemblement d'instituteurs, d'ailleurs.
Oui. Alors,
il n'était pas tout seul. Vous y avez
comparu. Non, mais pour me décider à passer cet examen, je suis allé chez l'instituteur avec ma tante, et donc l'instituteur et l'institutrice, donc qui était son épouse. Alors finalement, j'ai accepté, mais je suis parti sans me faire d'illusions que je n'aurais pas cet examen. D'ailleurs, je n'avais fait aucune révision. J'étais pas psychologiquement en état de réviser mes matières, l'arithmétique, la science, bref. Et ce jour-là, j'ai senti une facilité à répondre à toutes les questions qui étaient posées au niveau du calcul, etc., de faire la rédaction.
Et l'histoire, parce qu'il y avait beaucoup de matière pour le certificat d'études.
Ah ben oui, il y avait beaucoup de matière.
Le premier grand examen républicain.
Oui. Et au moment de la remise des prix, j'ai été appelé le deuxième, puisqu'il y avait le premier prix cantonal et le deuxième prix cantonal rural. Donc j'ai eu le premier prix cantonal rural. Alors là, ça a été un moment. Je n'y croyais pas. Hein. Je me suis dit, non, il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Et non, c'était bien Francis Ganry qui avait été appelé. Donc j'étais reçu d'abord, bonne nouvelle. Et deuxièmement, j'étais reçu haut la main avec un prix. Alors, et de nombreux prix d'ailleurs. Hein, le prix du Conseil général, le prix du.
Chaque édile avait un prix à remettre.
D'ailleurs, je l'ai décrit dans mon livre. Oui.
C'est une belle collection de prix que vous rameniez. Et il y avait de l'argent aussi. Comme
et là. Alors, j'ai eu de l'argent. Oui. Alors, j'ai même eu un livret de caisse d'épargne. Et je l'ai oublié par la suite, d'ailleurs. Et voilà.
Vous l'avez oublié, vous n'avez pas retrouvé ce livret.
Alors, j'ai pas retrouvé le livret de caisse d'épargne. Voilà.
Mais en tout cas, ce jour-là, vous avez eu la conviction que votre papa était là et qu'il vous tenait la main.
Alors,
puisque vous avez brillamment réussi.
Oui. Ce soir-là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'avais l'impression qu'on me tenait la main. Je l'ai dit à ma mère. Parce qu'après, vous avez l'imagination, on peut après se dire, disons que j'ai pensé par la suite à cela. Et ma maman m'a dit, non, tu me l'as bien dit le soir même, j'avais l'impression qu'on me tenait la main.
Rue des longueurs, l'inconnu passait. Rue des longueurs, l'inconnu passait. Pendant la nuit pleine, il a tissé la laine. Il rentre avec sa peine. Rue des longueurs, l'inconnu passait. Rue des longueurs, l'inconnu passait. À l'heure matinale, dedans ces abyssales, mon Dieu, comme il est pâle. Rue des longueurs, l'inconnu passait. Rue des longueurs, l'inconnu passait. Oh, vous qui cherchez le bon Dieu dans les nuages, vous ne verrez jamais son visage. Oh, vous qui cherchez le bon Dieu dans les nuages, vous manquerez encore.
Francis Ganry, donc vous passez, vous réussissez brillamment votre certificat d'études, avec à l'époque c'était un examen très important dans de nombreuses matières, et vous avez des prix, vous avez de l'argent, vous savez plus ce qui est devenu cet argent, peut-être que vous l'aviez dépensé, mais enfin vous n'étiez pas fondamentalement dépensier.
Non.
Non, non, ça c'est non, le monde non, paysan, non. On garde un petit peu... À
tout non, par contre, j'ai eu un dictionnaire, oui. Pour moi c'était très important, et un grand dictionnaire que j'ai gardé pendant toutes mes années au lycée.
D'accord, donc c'est bien, c'est ça. Oui, oui, oui. C'était votre premier grand livre.
Si ah, oui, oui, oui.
Francis Garry, c'était votre première rencontre, la nature. Votre papa qui vous y a aidé, votre maman aussi, parce qu'elle n'était pas indifférente à vos...
Ah, mais ma maman a joué un rôle absolument primordial. Hein. Ah oui, oui, oui.
D'accord. Par contre, est-ce que vous aviez un curé, parce que vous m'avez dit que vous l'invitiez à la fête du cochon, est-ce que vous étiez en bon terme avec votre curé? Est-ce qu'il vous avait déjà converti?
Non, non, je n'étais pas en bon terme avec mon curé, parce que j'étais vraiment rétif au catéchisme. Et je faisais tout pour ne pas aller au catéchisme. Je ne croyais pas du tout dans ces balivernes qu'il nous enseignait. Et alors lui, il était relativement sévère hein, comme curé. Bon, maintenant, après les années qui ont passé, je trouve que c'est normal. Hein.
Vous étiez un peu galopin, peut-être.
Voilà, j'étais un peu galopin. Donc, une fois, il m'a fait mettre à genoux dans l'église et je suis resté à genoux pendant toute la durée. Alors, c'était une séance de catéchisme où il nous apprenait le latin. Et moi, je n'avais pas du tout envie d'apprendre le latin. Et j'avais fugué. Je le raconte, c'est une histoire un peu pittoresque. J'étais à la recherche du chien, etc.
Lui ne vous a pas tenu la main le jour de votre certificat.
Alors lui, il ne m'a pas tenu la main. Ben, qui sait, peut-être, hein, je ne sais pas.
Mais il vous parlait du bon Dieu.
Alors, il me parlait du bon Dieu, mais moi, je ne croyais pas à ce bon Dieu dont il me parlait.
Pourquoi?
Bon, parce que ça me semblait tout à fait hors du ressenti de bonheur, de joie que j'avais à travers la nature. Hein, j'avais une forme d'exaltation hein, quand j'allais dans la nature et quand j'allais dans les bois, quand j'allais à la pêche, voilà, je ressentais un bonheur absolument extraordinaire. J'étais enfant, hein, j'avais donc 12, 13 ans. Et alors le catéchisme, je me disais, s'il y a un bon Dieu, il est injuste parce qu'il y a les pauvres, il y a les riches, voilà. Et chez moi, on était vraiment pauvres. Ce n'était pas la misère, mais on était très pauvres, quoi. Donc je ne pouvais pas croire à ce bon Dieu qui en somme toute, donc, aurait réglé une société sur ce régime de l'injustice, quoi.
Alors, je rappelle que tout ça, vous le racontez dans un livre qui s'appelle « Qui m'a tenu la main le jour de mon certificat d'études » et qui est paru aux éditions Saint-Léger. Alors, le curé, c'est pas une vraie rencontre, encore que vous ne l'avez jamais délaissé, vous l'avez revu avec joie ensuite.
Ah non, peut-être. Mais attendez, il y a un événement absolument extraordinaire, absolument, même qui relève sans doute là encore d'une intervention presque divine. Hein. C'est que ce curé, j'ai découvert après... quelle fut son extrême bonté hein, vis-à-vis de mon père. C'est que mon père s'étant suicidé, il ne pouvait pas passer à l'église. Et donc ce fut un véritable drame familial quand ma mère prit conscience que son mari donc, ne passerait pas à l'église, qu'il serait enterré
fosse ordinaire.
Voilà, dans une fosse, oui, enfin au cimetière, mais qu'il ne passerait pas à l'église. Quoi. Et à l'époque, c'était quand même très important de recevoir les derniers sacrements. Et le curé... Elle est allée voir le curé et le curé a pris la décision, donc une décision d'insubordination vis-à-vis de son évêque, de faire passer mon père à l'église. Donc mon père.
Ça s'est su, ça.
Comment?
Ça s'est su dans la commune.
Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, donc ce prêtre, ce curé, pour moi, si j'avais été en sa présence, je l'aurais embrassé, comme on dit maintenant. Hein. Voilà. Et donc pour moi, c'est devenu un saint, quoi. Voilà.
Oui, c'est un.
Ah oui, oui, oui.
Voilà. Une image de saint.
Une image de saint, voilà. Une image, ce prêtre, pour moi, il a l'image d'un saint homme actuellement. D'ailleurs, il est enterré dans son église, qu'il a à Saint-Sulpice de Cognac, en Charente. Voilà. Parce qu'en fait, par la suite...
On voit la photo dans votre livre.
Voilà, j'y ai mis la photo. Voilà.
Donc ça, c'est une rencontre importante que le curé de votre village...
Ah ben, c'est une rencontre importante, oui.
Voilà. Vous en avez fait d'autres, de rencontres qui ont marqué votre vie?
Alors, la deuxième rencontre, ben, c'est Jean-Michel. Parce que après ces révélations que j'ai reçues étant enfant, donc après la mort de mon père, le jour de mon certificat d'études, et puis ce fameux jour aussi où j'étais au collège, où une pensée aussi, bon, une une requête m'est venue intérieurement, me demandant de d'écrire tout cela, d'écrire ce que j'avais vécu, surtout d'écrire ce que cette facilité avec laquelle j'avais passé mon certificat d'études, et de dire que ça relevait presque du miracle, quoi. Donc pour moi, ça relevait du miracle. Et alors cela, alors il m'a été demandé en quelque sorte d'écrire cela, quoi. Voilà. Et j'ai pensé que cette requête qui m'était faite, c'était autour de cet événement du certificat d'études, quoi. Voilà. Alors j'ai pris la décision à ce moment-là, quand j'ai reçu cette demande, donc d'inspiration divine, hein, bien sûr, de le faire. Mais il faut bien se dire que j'étais à ce moment-là en quatrième, que j'étais un petit paysan. Hein. Pour moi, l'activité littéraire, eh bien, c'était plutôt une contrainte qu'autre chose, que je n'avais pas du tout l'habitude de faire des comptes rendus. Ça serait maintenant. Maintenant, je fais un voyage, voilà, je fais une expérience, après je fais un compte rendu. Mais à cette époque, pas du tout. Et ce n'est qu'après que j'ai pris conscience, mais c'est quand même incroyable, que tu aies reçu cet appel de faire d'écrire tout cela. Et donc pour moi, c'est une demande que je devais satisfaire par la suite. Alors après, j'ai fait une carrière scientifique, enfin ingénieur agronome dans la recherche agronomique, et je ne l'ai pas fait. Et ce n'est qu'à la retraite, après, que j'ai répondu à cet appel que j'avais reçu, donc d'écrire tout cela. Alors, pour revenir à cette rencontre, donc j'ai fait la rencontre de Jean-Michel, pour essayer de comprendre, après avoir vécu donc une expérience, disons qu'il ne m'a pas apporté de réponse avec les témoins de Jéhovah, donc j'étais toujours à la recherche d'une explication dans ces révélations que j'avais reçues étant enfant. Alors, les témoins de Jéhovah, donc ça a été un échec. Alors, heureusement, j'ai rencontré Teilhard de Chardin, donc ce prêtre scientifique, hein, géologue, paléontologue, qui m'a réconcilié, enfin qui m'a surtout permis de comprendre qu'il y avait une cohérence entre la Bible et la science. Et ça, c'était très important, puisque cette contradiction m'était fortement apparue lorsque, très récemment, j'avais séjourné donc chez les témoins de Jéhovah. Voilà.
Seigneur, mon ami, tu m'as pris par la main, j'irai avec toi sans effroi jusqu'au bout du chemin. Je marche avec toi dans le vent, dans le froid. Je marche, peu m'importe, je te porte dans mon cœur avec moi. Partout, c'est la danse, les sourires, les plaisirs. Mais moi, je m'avance en cherchant ton visage en tout ça.
Francis Gorry, vous nous avez dit depuis le début de cette émission qu'il y a quelques personnages qui ont tourné et gravité autour de vous, qui vous ont marqué. D'abord votre père, c'est indéniable, qui vous a un peu tenu la main, même s'il était décédé le jour de votre certificat d'études. Le curé aussi, mais aussi Jean-Michel. Alors Jean-Michel, qui est Jean-Michel ?
Alors Jean-Michel, alors actuellement Jean-Michel, il est responsable d'un petit monastère en Ardèche. Un petit monastère qui se compose donc d'une, c'est une grande ferme, une ancienne ferme qui est en pleine forêt et qui possède des ermitages. Et il est très sollicité justement parce qu'il y a beaucoup de laïcs qui veulent venir faire un ermitage dans ce
période,
monastère.
Une période. D'accord.
Voilà. Et peut-être une semaine, 15 jours, un mois.
Il est moine,
oui. D'accord. Il est frère. Alors, ils sont deux permanents dans ce monastère. Il y a beaucoup de monde, hein,
oui.
Parce qu'il y a du passage. Hein. Et son collègue moine, si je puis dire, lui, il est prêtre.
Son frère,
donc,
oui.
C'est lui. Et Jean-Michel, lui, il est frère, mais il est responsable du monastère. Alors, Jean-Michel, à l'époque, donc, quand je l'ai rencontré à Nancy, dans une école d'ingénieurs, donc il était élève ingénieur, et c'est lui qui m'a amené à prendre conscience que le cœur de tout ça, hein, le foyer de tout cela, partait de l'Évangile, et qu'il me fallait absolument connaître, apprendre et rencontrer l'Évangile. Donc c'est pour ça que j'ai parlé du Père Duval, et le Père Duval chante l'Évangile. Et quand le Père Duval chante l'Évangile, ça vous prend au cœur, quoi. Donc ça donne presque envie de pleurer, quoi. Et Jean-Michel, Jean-Michel m'a dit, tu devras lire deux livres qui sont très importants, parce que ces livres vont te permettre de comprendre ce qui s'est passé le jour de tes 13 ans, 14 ans, à la mort de ton père. Et ces livres-là, ils ont en moi donc été un révélateur. Qui m'a confirmé que je possédais, que ces révélations étaient d'origine divine. Et pour ces livres, je dirais, alors je me rappelle d'une phrase de Christian Bobin, hein, « Peu de livres changent une vie, quand ils la changent, c'est pour toujours. Des portes s'ouvrent et l'on ne soupçonne pas, on entre et on ne reviendra plus en arrière. » On ne reviendra plus en arrière. Et moi, lorsque j'ai lu ces livres, après ma rencontre avec Jean-Michel, je ne suis plus revenu en arrière. Pour moi, ça a été une certitude. C'est l'Évangile qui est la source de toutes ces révélations que j'ai eues. Voilà. Et c'est donc Jésus. Et c'est cette force qui guidait Jean-Michel. C'est cette force qu'il avait en lui. Et c'est cette force qui, par la suite, me donne cet espoir, cette espérance que j'ai en moi. Et qui me permet sans doute de surmonter les épreuves. Voilà, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'est ce message que je voudrais faire passer.
Et avec le frère Jean-Michel, vous réévoquez, puisqu'il est toujours donc dans ce monastère, vous réévoquez cette période quand vous le voyez.
Très peu.
Vous évoquez vos livres, vos lectures. Est-ce qu'il vous conseille encore? Parce qu'au fond, il a été l'instrument de votre...
Oui, il en a même été un peu surpris.
Ah oui.
Parce qu'il pensait pas que il avait pu jouer un rôle aussi important. Non, lorsque je vais le voir, on partage surtout l'actualité de sa vie à lui et de son collègue moine. L'actualité des gens qui viennent, on partage la même table. Parce que parmi les personnes qui viennent en retraite dans les ermitages, il y en a qui restent en permanence dans leur ermitage, ils viennent chercher leur repas que leur prépare Jean-Michel, et après ils vont dans leur ermitage, donc là ils se mettent en oraison, je suppose, donc ils prient en permanence.
Oui. Voilà.
Mais il y en a certains qui viennent partager le repas avec Jean-Michel et l'autre prêtre, et moi, je partage le repas avec eux.
C'est l'occasion de dialogue sur Dieu.
Sur Dieu.
Vous parlez de Dieu dans vos repas.
Parler sur Dieu, mais aussi de la nature, parce qu'ils sont en pleine forêt.
Au fond, vous revenez à vos premiers amours.
Oui,
la nature, ça tourne.
Voilà.
La nature, Dieu, votre papa, voilà. Et de
oui, alors,
la nature.
Ce que je voulais dire aussi, alors
oui.
Là, vous m'y faites penser, c'est que j'en parle dans le livre, c'est que j'ai eu une rencontre il n'y a pas longtemps, donc quand j'écrivais mon livre, je suis tombé sur un article d'un article paroissial chez ma maman, et où ils parlaient de la Sainte Trinité, et ils expliquaient un peu bon, un peu simplement, mais ce que pouvait être la Sainte Trinité, quoi, à travers un poème notamment. Et là, j'ai eu une révélation, j'ai enfin compris, j'ai pas dit que j'ai compris le mystère, hein, parce que impossible de comprendre, mais j'ai saisi le mystère de la Sainte Trinité. C'est-à-dire que Dieu, c'est la création, Jésus...
Dieu le Père.
Dieu le Père.
Père, c'est la création.
Les
oui.
étoiles, les rivières, les prés, les montagnes, les prairies, les montagnes. Jésus, c'est la rédemption, donc la mort écroulée. Et le Saint-Esprit, c'est la sanctification, donc c'est le cheminement spirituel, c'est la foi, l'évolution de la foi. Et j'ai pris aussi conscience, presque instantanément, que mon livre répondait un peu à ces trois grands domaines. Mon enfance, c'était la création, donc mon amour de la nature, des étoiles, des rivières, des forêts. La mort de mon père, la mort écroulée, le message que j'ai reçu. Et donc le
Christ qui relève.
Le Christ qui relève. Et puis l'Esprit Saint, mon cheminement spirituel. Oh, ben, j'ai dit, c'est merveilleux. Bon, voilà.
Voilà, parce que pour vous, c'était incompréhensible. Un Dieu trinitaire, c'était barbare.
Je me disais, comment ? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Un seul Dieu, bon, ben,
ça suffit,
hein. Pourquoi aller se compliquer avec le Saint-Esprit, puis dire que c'est la même chose, tout ça, bon, c'était un peu compliqué.
Voilà, le monothéisme, oui, mais à condition de l'éclairer, de l'éclairer. Et depuis, vous êtes resté dans cette foi, où vous avez progressé dans votre foi de chrétien et de catholique ?
Je ne peux pas dire que j'ai progressé, mais ma foi est toujours aussi intacte. Et c'est surtout cette certitude que j'ai que l'Évangile est au cœur de la force qui nous est donnée. Hein, c'est la force. Alors je découvre, effectivement, je viens de découvrir récemment, je lis Saint Paul. Je n'avais jamais autant lu Saint Paul. Saint Paul, c'est d'actualité, tout Saint Paul. Hein.
Voilà. Oui, tout à fait. Et ensuite, vous allez chercher un autre évangile, peut-être, un autre...
Oh oui, non,
Jean-Michel vous conseillera.
Peut-être.
Très bien. En tout cas, belle amitié avec voilà. Jean-Michel, hein, oui. qui vous a mené sur les chemins de
Et
Dieu.
Et puis alors, je voulais dire aussi, j'ai rencontré quand même, parce que mon secret très profond, c'est-à-dire... cette voix que j'avais reçue quand je ne l'avais pas dit à Jean-Michel, hein. Je crois que j'ai parlé à Jean-Michel que j'avais passé mon certificat d'études et que avec succès, que je pensais que j'avais été aidé, mais ce secret profond, je voulais me confier à un prêtre. Et je me suis confié à un prêtre, mais longtemps après, une quinzaine d'années après, et c'était en Afrique, donc c'était au Sénégal, et j'ai rencontré mon curé, et je suis allé, je lui ai tout expliqué, donc c'est le père Barras, qui était un curé, qui est toujours curé d'ailleurs, hein. Il est...
Cheveux blancs, belle barbe.
Voilà. Et je me suis confié à lui, hein. Et donc il m'a dit que effectivement tout cela relevait de messages divins et que je n'avais pas du tout à douter de ces messages que j'avais reçus, que ce n'était pas mon imagination.
Francis Ganry, merci de nous avoir partagé vos émotions, vos coups de cœur, votre rencontre avec Jean-Michel et surtout votre conversion. Et sur ce chemin, vous avez découvert la Trinité. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Qui m'a tenu la main le jour de mon certificat d'études » aux éditions Saint-Léger. En gros, c'est le récit d'un témoin du monde paysan et de la foi, de votre foi. Francis Ganry, merci beaucoup et revenez nous voir, s'il vous plaît, pour nous parler encore de votre foi.
Merci RCF Maguelone.
À bientôt.